Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal.
Mazel Kenz, bonjour.
Bonjour Hakim, madame, monsieur, bonjour. Lancement imminent de la mine de fer de Garajbilat à Tindouf. Une délégation ministérielle est à Béchar pour superviser les préparatifs. L'exploitation est prévue début 2026. L'ADL annonce la localisation de plus de 80 000 logements de son troisième programme. La loi de finances 2026 prévoit 300 000 unités supplémentaires, soit un total de 500 000 pour l'année prochaine, grâce aux nouveaux engagements de l'État. L'API fait son bilan, plus de 19 000 projets lancés depuis sa création en 2022 pour un montant de 8 242 milliards de dinars, des chiffres communiqués par son directeur général. La Libye en deuil, son chef d'état-major et plusieurs hauts responsables militaires sont morts dans le crash de leur avion en Turquie. Une panne électrique serait à l'origine du drame. L'autorité palestinienne dénonce la politique expansionniste de l'entité sioniste qui prévoit la construction de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée. Et puis Cannes 2025 de football, jour J pour les Verts qui font leur entrée en lice ce mercredi. Ils affrontent le Soudan, coup d'envoi de la rencontre 16h.
Une délégation ministérielle à Béchar pour suivre les préparatifs d'un important événement.
Il s'agit du lancement de l'exploitation du minerai de fer de Garajbilat à Tindouf. Le projet comprend une nouvelle ligne ferroviaire de près de 1000 km reliant la mine à Béchar, conçue pour transporter le minerai mais également les voyageurs. Avec 3,5 milliards de tonnes de réserves, Garajbilat est l'une des plus grandes mines à ciel ouvert au monde. Le président de la République a ordonné le début de l'exploitation dès le premier trimestre 2026, ce qui consolidera la souveraineté économique et la diversification des ressources du pays. Autre projet tout aussi important, le programme ADL3. L'agence annonce la localisation de plus de 80 000 logements de ce programme dans 26 wilayas du pays. Les efforts soutenus de l'État ont permis de dépasser le seuil des promesses et des engagements. Hanan Saïsi.
Un objectif atteint grâce à l'effort des pouvoirs publics visant à accélérer la cadence de réalisation des programmes concernés et répondre aux attentes des souscripteurs. Mohamed Morjani, directeur général du logement au ministère de l'Habitat.
Depuis que Monsieur le Président de la République a procédé à la pose de la première pierre de la ville de Constantine au niveau du site du pôle de Sisaoui pour l'entame de 8050 logements. Depuis cet événement, l'objectif qui a été arrêté était de lancer avant la fin de l'année 46 000 logements parmi les 200 000 prévus pour l'année 2025. Aujourd'hui, nous assistons à l'implantation de plus de 80 000 logements, plus exactement 80 105 à travers 26 wilayas.
Même cadence attendue pour atteindre les 500 000 unités d'habitation avant la fin de l'année 2026.
Et je dois dire également que Monsieur le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a procédé, lors de sa visite au niveau de la wilaya de Bomerdès, a procédé à la pose de la première pierre pour 20 000 logements. Et je dois dire également que la loi de finances 2026 a prévu l'inscription de 300 000, ce qui ramène le nombre total du programme inscrit en faveur des souscripteurs ADL3 et de 500 000.
À noter que le programme du président de la République prévoit 2 millions de logements avec en perspective la réalisation d'un demi-million d'unités par an.
Le président du Conseil de la Nation salue les avancées de la transformation numérique en Algérie. Intervenant lors d'une journée parlementaire consacrée au numérique, Azouz Nasri a rappelé que la numérisation n'est plus une option mais une nécessité impliquant une modernisation des règles juridiques et le recours à des technologies innovantes, notamment l'intelligence artificielle, pour garantir aux citoyens un accès numérique élargi aux services publics. Et lors de sa réunion hebdomadaire, le gouvernement a examiné un avant-projet de loi sur le numérique. Le texte porte sur la création d'un cadre légal pour accompagner la transformation digitale du pays et renforcer la performance administrative grâce à la numérisation. Il a également été question des établissements privés de prise en charge des enfants aux besoins spécifiques. Le projet de décret y afférent vise à améliorer leur organisation et leur fonctionnement. Il sera basé sur la récente loi sur la protection des personnes en situation d'handicap.
On parle à présent économie et investissement. L'API qui fait son bilan.
Et depuis son lancement en novembre 2022, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement a enregistré plus de 19 000 projets pour un montant global de 8 242 milliards de dinars, soit environ 61 milliards de dollars, des chiffres communiqués par son directeur général Omar Kach. Ces propos sont recueillis par Mayel Kenz.
À la date du 21 décembre courant, 19 054 projets d'investissement ont été déclarés pour une valeur globale de 8 242 milliards de dinars, soit l'équivalent de 61 milliards de dollars, avec des prévisions de près de 470 000 emplois directs. Parmi les 9 026 projets dont les porteurs ont déposé un état d'avancement, 4 904 projets sont effectivement entrés en phase de réalisation, représentant un taux de 54%.
Et selon l'API, ce bilan reflète la confiance des investisseurs nationaux et étrangers dans les réformes engagées et confirme l'attractivité de l'économie algérienne. Et pour relancer et renforcer justement cette attractivité, l'agence Presse Service et l'API ont signé un mémorandum d'entente pour mettre en lumière les projets et réussites économiques à l'échelle nationale et internationale. Le produit local a le vent en poupe, un made in Algeria en pleine transformation, packaging moderne, technologie de pointe et produits agroalimentaires qui n'ont rien à envier aux grandes marques internationales, des produits à découvrir à la foire de la production nationale. Sami Alloun.
En plus des espaces réservés aux exposants, d'autres zones au sein de la foire de la production algérienne sont dédiées aux démonstrations, à la dégustation, mais aussi au divertissement. Venus entre amis ou en famille, les visiteurs sont nombreux à constater une nette amélioration dans plusieurs secteurs industriels, dans l'électroménager, la technologie, mais aussi l'industrie agroalimentaire et les stratégies marketing.
Nous remarquons un développement de la production nationale. Nous sommes ici pour tenter de trouver un écran télévisé intelligent. La technologie est belle et bien là. Nous avons également constaté que les couleurs des produits et des emballages, les formes en général, ont également été développées. Personnellement, cela m'encourage à consommer des produits de chez nous. Ce genre de rencontres ou de salons nous permettent d'en savoir plus sur tout ce qui est produit en Algérie.
Franchement, du point de vue packaging, nous avons vu que beaucoup de marques font beaucoup d'efforts. Nous remarquons que plusieurs entreprises tentent de moderniser leurs identités visuelles, logo, formes, et autres facteurs semblables pour concurrencer les produits à l'international. Du côté agroalimentaire, j'ai découvert beaucoup de marques de chocolat et de friandises. Même du côté marketing et communication, je constate qu'il y a une différence.
Des facteurs tels que le packaging, le marketing et autres peuvent contribuer à renforcer la confiance dans le produit made in Algérie, des produits, des services qui suscitent une fierté croissante liée à la consommation locale.
Le secrétaire d'État chargé des affaires, la secrétaire d'État chargée des affaires africaines, Selma Barta Mansouri, a reçu l'ancien parlementaire ghanéen Abdoulaye Mohamed Barak. Sa visite s'inscrit dans une tournée africaine pour renforcer la libre circulation et les échanges entre citoyens du continent. Lors de la rencontre, l'unité et la solidarité africaine ont été saluées, ainsi que le rôle central de l'Algérie dans le renforcement des partenariats et du commerce africain. Barak a également réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et remis une lettre au président Tebboune.
Voilà, international, la Libye en deuil, Faisal Kenza.
Drapeau en berne et cérémonies et célébrations officielles suspendues. 3 jours de deuil national sont décrétés en Libye. Son chef d'état-major, le général de corps d'armée Mohamed El-Haddad, et plusieurs hauts responsables militaires sont morts dans le crash d'un avion survenu lors de leur retour d'une mission officielle en Turquie. L'annonce a été faite par le premier ministre du gouvernement national libyen. Et selon les autorités turques, l'appareil, un Falcon 50, a eu une panne électrique moins d'un quart d'heure après son décollage de la capitale Ankara. Au Soudan, la guerre fait rage et plonge le pays dans une crise humanitaire sans précédent. Les violences menacent désormais la stabilité de toute la région, Elias Terrini.
Les combats s'intensifient et s'étendent du Darfour vers le Kordofan, au centre du pays. Les forces de soutien rapide ont confirmé le rejet de l'initiative de cessez-le-feu présentée au Conseil de sécurité de l'ONU. Les paramilitaires enregistrent d'importantes avancées territoriales, prenant le contrôle de villes clés et d'un site pétrolier stratégique, faisant craindre un scénario similaire à celui d'Al-Fashir, tombé fin novembre après un long siège. Sur le terrain, la violence se durcit, avec un recours accru aux drones. Des frappes ont touché une école, un hôpital et même une base des Nations Unies, tuant des casques bleus. L'ONU met en garde contre de possibles crimes de guerre. La situation humanitaire est jugée catastrophique. Les sièges empêchent l'accès à la nourriture, aux soins et à l'aide d'urgence. Près de 30 millions de personnes sont aujourd'hui en détresse et plus de 10 millions ont été déplacées. La guerre soudanaise est alimentée par des soutiens extérieurs. Faute de solutions politiques et de réactions internationales efficaces, le Soudan s'enfonce dans un conflit sans issue, au risque d'embraser toute la région.
L'autorité palestinienne dénonce la politique expansionniste de l'entité sioniste qui prévoit 19 nouvelles colonies en Cisjordanie occupées. Le ministère palestinien des Affaires étrangères dénonce qu'il s'agit d'un prolongement direct des politiques d'apartheid, de colonisation et d'annexion qui portent atteinte aux droits inaliénables du peuple palestinien et qui risquent d'anéantir toute perspective de réelle stabilité. Retour chez nous, les forces de sécurité combinées aux unités du MDN mènent une lutte implacable contre le trafic de drogue. L'ANP a ainsi démantelé un réseau criminel dans l'ouest du pays composé de 9 trafiquants, plus de 517 000 comprimés et d'extasy, 5 voitures, 2 semi-remorques et près de 14 millions de dinars ont été saisis. De son côté, la Sûreté nationale a mis fin aux agissements d'un réseau de trafic de drogue à Béchar. Bilan de l'opération, plus de 175 kg de cannabis provenant du Maroc saisi et 3 suspects arrêtés. Plusieurs routes nationales, les chemins de Wilaya du centre du pays sont fermés à la circulation à cause des fortes chutes de neige, notamment entre Tizi Ouzou, Bouira et Béjaïa. Les RN 15, 30 et 33 ainsi que le chemin de Wilaya 253 sont particulièrement touchés. D'autres Wilaya comme Batna, Djelfa, Tiaret ou encore Tlemcen connaissent aussi des difficultés de circulation. La gendarmerie nationale est mobilisée sur le terrain pour sécuriser les usagers, évacuer les personnes bloquées et tenter de rouvrir les axes fermés. Un conseil, soyez vigilants, évitez les déplacements non nécessaires et respectez le code de la route. On vous emmène ce matin au musée du Bardot où se tient une scénographie originale. Elle est l'œuvre de la créatrice de mode Faiza Andribouzar. Nadia Siassi l'a rencontrée.
Faiza Andribouzar est issue d'une famille d'artisans bijoutiers. Elle est créatrice de mode et nous présente les femmes d'Alger, l'appartement retrouvé, une exposition qui se veut à la fois ethnographique, visuelle, artistique et artisanale.
On se trouve dans le patio de l'appartement des femmes d'Alger au musée du Bardot. C'est un grand honneur pour moi, c'est une grande émotion d'en faire mon appartement pour 2 semaines où j'expose mes œuvres. J'ai appelé des femmes à participer avec moi à l'expo. C'est pour ça que c'est un peu ethnographique. Nous avons des pièces anciennes ici. On raconte un peu l'histoire de ces femmes qui ont porté ces caracos et l'histoire de ces caracos qui voyagent depuis quelques décennies, parfois des siècles. Là, on a 5 générations. Si on reprend le caraco de Mani qui, elle, est née en 1900, elle a porté le caraco en 1913. Il y a eu sa fille Souhila, ma grand-mère, qui a fait l'école coranique. Ensuite, il y a eu ma mère qui est née en 55, qui a eu le bac, mais qui n'a pas pu aller à l'université parce qu'elle s'est mariée, elle m'a eu, elle n'avait pas une modalité de garde d'enfant, c'était un peu compliqué. Moi qui suis allée à l'université, qui voyage, ça veut dire beaucoup. Voilà. C'est comment la femme algérienne a évolué dans la société, pas qu'à travers ma famille. Là, j'ai invité 4 autres familles à venir et à partager avec nous l'évolution de ces familles, différentes scènes de vie. Et on a des femmes qui écoutent, une des filles qui joue au piano et ses amis qui l'écoutent. On a parfois une autre génération qui accompagne des femmes.
Les femmes d'Alger, l'appartement retrouvé est une vision avant-gardiste de la mode algérienne de Faiza Andribouzar, visible jusqu'à la fin de ce mois au Musée National du Bardot à Alger.
Et on termine avec le foot et la CAN 2025. C'est le jour J pour les Verts qui font leur entrée en lice dans la compétition. Ils affrontent cet après-midi le Soudan. Coup d'envoi de la rencontre 16h. Et vous pourrez bien évidemment suivre la retransmission en direct sur nos ondes. Mise à jour de la 3e journée de Ligue 1. Le MC Alger remporte une précieuse victoire face à l'ES Ben Aknoun 1-0. Le doyen consolide ainsi sa place de leader avec 28 points à 6 longueurs d'avance sur son premier. Et poursuivant l'USM Alger qui a encore 2 matchs en retard à jouer. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Sédir était à la console technique et Hussein à la régie d'antenne.